en deux noirs, suite et fin. Donc, avant de laisser la parole à Jacques, je voudrais simplement, parce que on a coupé un petit peu vite la première partie d'émission, donc préciser, plateau, livre de Franck Bouys, magnifique roman de Franck Bouys, paru à la collection Territory à la Manufacture de Livres. Et nous avons aussi évoqué le précédent de Franck Bouys. Et ce que je voulais préciser, c'est que maintenant, il est sorti même en livre de poche. Donc, vous pouvez découvrir cet auteur pour un format poche. Et ce livre s'appelle Grossir le ciel. Mais il était précédemment paru aussi dans cette collection Territory à la Manufacture de Livres. Voilà, Jacques, on va changer. Va-t-on changer d'univers finalement ?
On va pas vraiment changer d'univers, un petit peu quand même, mais en fait, on va rester quand même pas mal dans la nature, avec un roman de la collection Néo-Noir de chez Gallmeister. Donc, c'est le premier de cette collection en 2016. C'est un roman de Monsieur John Bassoff, qui s'appelle Corrosion, et qui est traduit par Anatole Ponce. Et ce roman va nous amener aux États-Unis, donc dans quelque chose qu'on peut qualifier du trou du cul du monde, dans une ville de montagne appelée Stratton, une ville qui est à environ 30 km de la montagne, avec un M majuscule, c'est la montagne du narrateur. Voilà comment en fait il l'a décrit dès les premières pages du livre, la première page. La ville s'appelait Stratton et n'avait rien de spécial, juste des bâtiments en briques et des bungalows décrépits, et des bicoques de pauvres. Le tout posé au hasard par Dieu après 2 semaines de beuverie. La vieille université se raccrochait désespérément à la vie. Supérette abandonnée, station-service abandonnée, motel abandonné, des panneaux rouillés et des fenêtres condamnées.
Ah mais on sent que ça donne vraiment envie d'y aller.
Ça donne vraiment envie d'y aller. C'est sûr, c'est pas Saint-Tropez. Et le narrateur donc s'appelle John Dawes. C'est un ancien marine du 1er bataillon, 7e régiment, 1ère division. C'est lui qui le répète souvent, donc je le fais aussi. C'est un mystérieux vétéran de la guerre d'Irak, dont le visage a été défiguré par l'explosion d'une bombe qui a fait sauter son humeur. Et ça fait sauter son humeur aussi,
oui,
d'ailleurs,
oui,
pour
ça,
le coup.
J'imagine,
surtout
oui.
Que c'est le seul rescapé. Et le voilà donc, après quelques séjours en hôpital, de retour au pays. Quelque part sur la route de son chez-lui, donc sa montagne. Et il s'arrête dans le troquet de ce patelin, donc Stratton. Et dans le troquet, il y a un jukebox qui diffuse de la musique country. Il veut juste boire une bière fraîche, après une longue route dans son pick-up pourri qu'il ramène à la maison. Et tandis qu'il sirote tranquillement sa bud, il faut le faire, il voit un mec qui tabasse assez violemment une femme. Et lui, c'est un grand âme, héros de l'Amérique. Il va prendre la défense de la femme et cogner sévèrement, même très sévèrement, le brutal mari. La femme va le suivre dans son hôtel minable pour un bon gros câlin. La jeune femme s'appelle Lilith et ce prénom n'est pas du tout au hasard. C'est une espèce d'ange de la mort. Et ce n'est pas du tout anodin, ce prénom. Elle va l'entraîner dans un tas d'embrouilles et en périr. Je peux me permettre de le dire, vu que c'est écrit sur la 4e de couverture, donc ils n'auraient pas de surprise. Je dévoile vraiment rien. Et de toute manière, ça n'a pas une importance terrible que je le dise. Puis, sans que le lecteur, du moins moi en tous les cas, s'en rende compte, l'auteur va nous entraîner, dès le 2e chapitre, il n'y en a que 4, dans une espèce de maelstrom où la folie va prendre de plus en plus de place. Une folie où se mêle la religion, en fait plutôt une certaine forme de religiosité. On est en Amérique. Le patriotisme, un patriotisme un petit peu abruti. Un patriotique bas du front, un aussi un nationalisme étriqué. Tout dans cet univers, en fait, semble atteint de décrépitude avancée, comme on le lisait dans
La corrosion.
Voilà, ça s'appelle corrosion, pas pour rien. Tout est en décrépitude avancée. Donc l'environnement, les gens, les murs, et même. On en rappellera peut-être les rats, parce qu'il va y avoir des rats. Il y en a un d'ailleurs sur la couverture, tout petit.
Ah oui, tout petit. Hein.
Mais c'est aussi une espèce d'apocalypse au cœur de l'Amérique rurale. Le narrateur n'est pas le seul atteint de folie, mais chez lui, cela dure depuis longtemps. Depuis la solitude de l'adolescence entre une mère malade et un père pseudo-scientifique, en fait il est charpentier, qui fait des expériences sur des rats pour tenter de la sauver sa mère. Je peux pas vous en dire plus, en fait. Je peux pas vous en dire plus pour quand même que vous découvriez par vous-même ce qui va arriver à John Downes et pour vous laisser entraîner par cette écriture très forte, cette construction romanesque qui est vraiment impeccable et implacable. La folie est instillée par petites touches, et si on n'y prend pas garde, si on ne s'accroche pas aux pages, on peut se laisser contaminer par ce qui va pourrait s'apparenter à un long cauchemar, un cauchemar un peu fiévreux et assez malsain, il faut bien dire. Mais enfin, juste le cauchemar pour nous, c'est juste le temps d'une lecture qui, elle, devient par contre un peu assez jouissive, quoi, parce que c'est vraiment super bien fait.
Et addictive, apparemment.
Et addictive. Sur son site internet, John Bassoff se décrit comme un gothic noir writer, un écrivain de noir gothique, donc. C'est plutôt bien vu. Les critiques anglo-saxons l'ont comparé à McCarthy et à Donald Ray Pollock, oui, ou encore à Chuck Palahniuk, ce qui est quand même de bonnes références. Et il y en a même une autre, à Jim Thompson, une influence qu'il revendique certainement d'ailleurs, car il fait un clin d'œil en toute fin du roman. Je ne vous dévoile rien, rassurez-vous. On repart dans la nature.
Juste le temps de trouver la bonne page. Voilà, ne vous inquiétez pas.
On repart dans la nature. Je pris la route et le monde était désert, à part quelques peupliers de Virginie, alignés le long des berges d'un fleuve sans nom. Il y avait des rails de chemin de fer et des élévateurs à trémies, et enfin un château d'eau et des pavillons délabrés. Puis un panneau annonçant « Bienvenue à Thompsonville, 1372 sympathiques habitants. Je sortis de l'Interstate 6. »
Voilà, ça c'est une allusion à un livre dont on va reparler d'ailleurs parce qu'il est en retraduction. C'est Pop 1280 âme.
Voilà,
de Jim Thompson.
De Jim Thompson, on en reparlera sûrement. Donc là, je répète, John Bassoff, le roman s'appelle Corrosion et il est paru chez Néo Noir.
Là,
dans
bon.
L'action de la question, Néo Noir chez Gallmeister.
Donc un petit peu de musique maintenant.
Un petit peu de musique. On va rester. Pas vraiment dans l'esprit, mais le titre de ce morceau s'appelle Your Mind Has Left Your Body, donc l'esprit a quitté cet homme, enfin son corps, ce qui est quand même assez proche de ce qui est arrivé à ce John Doe. C'est extrait d'un album du regretté Paul Kantner, donc qui était le guitariste fondateur de Jefferson Airplane, un album qu'il a fait avec Grace Slick et David Freiberg. C'est un album qu'ils ont signé de leurs trois noms, et donc c'était un petit peu l'intermédiaire entre le Jefferson Airplane et le Jefferson Starship, que ça va devenir un peu plus tard. C'est tellement d'ailleurs le Jefferson Airplane que dans ce titre, il y a même Jorma Kokkonen à la guitare et Jack Cassady à la basse, donc c'est pratiquement l'Airplane, et c'est un très bon morceau. Your Mind Has Left Your Body, Paul Kantner.
Riders of the rainbow, that is-
Et voilà, donc, c'était plus l'Airplane, mais c'est encore bien psychédélique. Donc, Paul Kantner avec Grace Leake et David Freiberg.
Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Et ce soir, je crois qu'on va rester en France, ce qui est assez rare. Vous nous emmenez souvent aux États-Unis, en Amérique du Sud, et là, c'est en France.
Et non, c'est en Belgique.
En Belgique, pardon.
Enfin, oui, ça pourrait être en France, en fait. Mais je crois que c'est en Belgique.
Voilà. Alors donc, un livre sorti récemment à la Série Noire. Je vous laisse le présenter.
Alors, c'est bien écrit en français. Et le livre s'appelle « Si tous les dieux nous abandonnent ». Et c'est signé Patrick Delperdange, donc à la Série Noire, chez Gallimard. C'est le premier livre de Patrick Delperdange à la Série Noire. Mais d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est pas du tout son premier livre. Il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit d'autres livres. Et donc on est à la campagne. Une campagne alors qui pourrait être le nord de la France ou le sud de la Belgique. Enfin, ce n'est pas localisé de façon très précise. Et ça commence la nuit avec Céline, une jeune femme qui est en train de fuir. Elle a juste un sac à dos, un pull taché de sang, un couteau. Et elle est l'hiver, la nuit, sur une route de campagne. Et sur cette route, Léopold la prend en stop. Alors Léopold, c'est un vieil homme qui finit de vieillir tout seul dans une ferme qui tombe en ruine depuis que sa femme est morte. Il va la ramener chez lui parce qu'elle ne sait pas où aller. Et il l'amène donc dans sa ferme qui tombe en ruine, dans le petit village de Valmont. Et elle ne va pas passer inaperçue, Céline, dans le village de Valmont, parce que dans ce village-là, il ne se passe rien, pas beaucoup de jeunesse. Donc il y a Léopold. Il y a un des personnages, c'est Jocelyn. Jocelyn, il est pas très très malin. Il vivote, on sait pas trop comment, et il fantasme comme beaucoup d'autres sur Céline. Bon, tout ça, ça pourrait en rester là, mais un jour, en voulant partir de chez Léopold pour continuer à fuir, on ne sait quoi, Céline est attaquée par les chiens du frère de Jocelyn, Maurice, et elle va se défendre, elle en blesse un, et c'est là que tout va déraper. Tout va commencer à déraper. Voilà, alors c'est un point de départ assez minimaliste, comme vous voyez, dans un décor qui est aussi très minimaliste. Alors là, on n'est pas du tout dans les grands espaces américains de chez Gallmeister. C'est une campagne où l'étang est à moitié vide, il est plein de vases, c'est gris, c'est pas très beau.
Bref, c'est le nord de la France, quoi, pardon.
Je connais pas bien, donc je ne m'avancerai pas.
Oui, non, moi non plus, moi, c'est la bête sudiste qui parle, là, non, voilà. Je
présente. Moi, ou sudiste ou sud-ouest. Donc, alors, par contre, c'est magnifiquement écrit. On a c'est assez court, hein. Ce sont 200 pages avec des chapitres courts et avec une narration à trois voix. On a Céline, Léopold et Jocelyn. L'auteur a une grande habileté, une grande intelligence. Il nous donne à peine les éléments de contexte et de passé pour comprendre ce qui se passe. Mais il ne va pas nous faire un CV de chacun des personnages. Les choses qui sont importantes et dont on a besoin remontent au fur et à mesure. Et il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de mystères qui resteront des mystères. Ça, c'est très bien. Et cette Céline qui est complètement paumée, qui passe son temps à fuir finalement, qui fait une menace qui va rester longtemps mystérieuse, qui n'y échappe finalement que pour se remettre dans le pétrin, mais c'est le catalyseur dans ce village de Valmont et qui va démarrer une réaction en chaîne et qui va dans un village où, comme dans tous les villages, il y a beaucoup de secrets, ben ces secrets petit à petit, les secrets, les frustrations, les hontes cachées, tout ça, ça va remonter petit à petit à la lumière et pas pour le meilleur, on va dire. Alors, ça paraît une écriture très minimaliste, très proche des gens. Alors ici, il n'y a pas de grands croque-mitaines, de grands serial killers, pas de grands criminels. Il y a juste la misère à la fois économique, sociale, culturelle, intellectuelle, la bêtise, la méchanceté, mesquine et ordinaire, beaucoup d'envie, énormément de frustration. Pas d'avenir, pas de projet, et puis une grande solitude. Et donc au milieu de tout ça, dans cette ruralité qui n'est pas très très rose, qui est plutôt grise et déprimante, eh ben, c'est, tout ça, ça flirte avec la folie très rapidement. Et la folie plus la solitude plus la misère, c'est souvent agressif et ça peut devenir mortel. Voilà, c'est tout ça que l'auteur arrive à rendre avec ses tout petits chapitres, où il se passe peu de choses, mais où petit à petit la tension arrive à monter, et en même temps que la tension monte, il y a des secrets, des vilains secrets qui remontent. Donc c'est très beau, c'est très noir. Il y a quand même quelques moments de lumière, quelques moments d'empathie, quelques moments où tous les personnages, à un moment ou un autre, pas Maurice, là, le frère de Jocelyn, celui-là, il est assez...
Il est récupérable.
Oui, il est récupérable. Mais même Jocelyn, il y a même des moments presque drôles d'absurdité, de rencontres avec, avec des gens complètement paumés, complètement à côté de la plaque. Et puis, de temps en temps, il y a des explosions de violence. Voilà, donc c'est très étonnant. Alors, si on voulait faire des références à des films ou à nos amis américains, on pourrait dire que par moments, il y a presque des relents de délivrance, mais moins rudes. Il y a des moments aussi un peu style les chiens de paille, quoi, où on sent qu'ils vont être assiégés dans la maison par deux êtres violents et qu'on ne sait pas comment ils s'en sortir. Voilà, c'est tout ça, c'est mélangé tout ça. Très bien écrit, avec un très beau personnage de Céline aussi. Après, je ne dirai pas plus sur comment tout cela se termine.
Non, on va garder.
Tout cela fait remonter.
Il y a une scène avec des ragondins qui est pas mal du tout.
Oui, il y a une scène, voilà, ça faisait partie de ces scènes étonnantes, avec des ragondins comme personnage, oui. Oui, et puis les fameux chiens de Maurice aussi, il y a quelques scènes pas mal avec ça. Donc un très beau roman, très noir, assez sec, mais qui arrive à montrer de l'empathie pour des personnages pour lesquels, a priori, on ne devrait pas en avoir beaucoup quand même, quand on y réfléchit.
Mais qui sont quand même, par rapport à ce que vous dites, tout bêtement des personnages de la vie plutôt ordinaire, finalement.
Voilà, plutôt ordinaire, même si, en ce qui me concerne, et sans doute aussi en tant que citadin,
on croise
tous les jours, parce que c'est pas le milieu dans lequel on évolue. Mais ils sont décrits avec ce qu'on sent être une grande, très grande justesse et une grande empathie. Et c'est donc en Belgique.
Oui, alors
oui, parce qu'en fait, il y a un moment, il parle de la frontière, donc on n'est pas bien loin de la France non plus.
Moi, demander, est-ce qu'ils disent 70 ou est-ce qu'ils disent 70?
Ils doivent pas dire, à mon avis, c'est jamais prononcé, sinon j'aurais dit tout de suite, je suis sûr que je suis en Belgique. Mais on ne dit ni 70,
il n'y a pas
70,
cet indice.
Il y a un indice, c'est qu'à un moment, il donne un code postal, et le code postal, il n'est que à 4 chiffres.
Ah, donc on est en Belgique.
Waouh, quel investigateur, Jacques, ouais, alors bravo.
J'avoue qu'il y a des détails qui ont dû m'échapper. Alors ce serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il a écrit d'autre avant d'être publié à la
Apparemment, il y a un Babel Noir.
Il y en a un qui était réédité en Babel Noir il y a quelques années, oui. Qui doit être dans le noir aussi, on peut supposer, vu la collection.
Disons que vu la tonalité de ce qu'il écrit là, je serais très étonné si on me disait qu'il avait écrit du Harlequin avant. Voilà. Je pense que c'est après. Est-ce que c'est dans une collection de polars ou pas? Finalement, c'est pas forcément très important.
Non, l'important, c'est qu'apparemment, il y a la qualité d'écriture, la qualité de narration et une histoire qui nous happe. Donc, voilà. C'est ce qu'on aime dans ces romans noirs. Alors, on va peut-être reciter le nom de l'auteur, parce qu'il est quand même un peu inconnu pour l'instant. On espère que ça ne va pas durer longtemps.
Voilà, Patrick Delperdange. Et le titre, c'est « Si tous les dieux nous abandonnent ».
Et c'est chez Gallimard.
À la série noire.
71 ans cette année.
Voilà, ça commence bien, donc cette 71e année.
Oui, ça commençait très très bien. Pour paraphraser un titre d'un recueil d'Emmanuel Urien, c'est un roman qu'on pourrait qualifier de court noir et sans sucre.
Exactement.
Excellent recueil de nouvelles. Jean-Marc, on arrive au bout de notre émission, donc merci beaucoup, et puis j'espère à très bientôt.
À très bientôt et bonne soirée. Au revoir.
Bonne soirée à vous. Et bien voilà, c'est donc la fin de l'émission, donc chacun dans son coin avec un bon bouquin. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous, et on vous laisse avec quelques instants d'Hendrix et les infos.